bien. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver.
Nous également.
Veuillez vous asseoir.
Merci, papa.
Ce matin, vous avez dû l'observer. C'est vrai que nous n'étions pas encore en direct, mais je suis arrivé un peu plus tard que d'habitude. Point. Vous savez pourquoi? Si quelqu'un vous dit que le service à Dieu est quelque chose de facile, il vous a menti. Vous avez compris? Si quelqu'un vous raconte que servir Dieu est une tâche facile, il vous a menti. Vous savez, pendant des siècles, pendant des dizaines d'années, quelqu'un s'est nourri dans vos vies. Vous avez compris? Quelqu'un s'est nourri dans vos vies. Il s'est servi comme il voulait. Il a fait tout ce qu'il voulait de vous. Cependant, Dieu a décidé de siffler la fin de la récréation. Dieu a décidé de siffler la fin de la récréation. Comment est-ce qu'il veut le qualifier? Le moustique qui voulait m'empêcher de dispenser l'enseignement de ce jour a été écrasé. Le moustique a été écrasé. Vous savez, Satan, le diable, c'est un tricheur, c'est un fraudeur, c'est la première créature de toute l'histoire de la création à avoir échoué. Et pour avoir échoué, il a été chassé du ciel. Et c'est pour cela qu'il en veut à l'être humain. Vous savez pourquoi? Parce que toute la gloire, tous les honneurs qu'il avait auprès de Dieu, lorsque Satan a été chassé, l'homme n'était même pas encore créé. Il est descendu sur terre étant très furieux. Et lorsque Dieu décide de créer l'homme, ayant déjà une expérience malencontreuse avec Satan, Dieu décide de faire de l'homme une créature exceptionnelle. Vous comprenez? Dieu donne à l'homme tout ce qu'il a de lui-même. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes des dieux. Vous avez compris? Et donc, Satan, le diable, frustré de voir une nouvelle créature héritée des honneurs auxquels il avait droit, ne peut pas vous vouloir du bien. Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent être les amis du diable se trompent énormément. Satan ne sera jamais l'ami de l'homme. Il ne sera jamais votre ami, quel que soit ce qu'il vous promet. Quels que soient les mensonges qu'il vous raconte, ce n'est que de la fumée. Vous avez compris? C'est pourquoi vous devez lutter jusqu'au sang pour vous tenir éloigné de ce bonhomme-là. Il n'est pas du tout gentil. Vous avez compris? Je m'adresse maintenant de manière particulière à toute la grande famille des enfants de Dieu qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. Et je souhaite particulièrement la bienvenue à tous ceux-là qui sont encore dans les ténèbres, mais qui du fond de leur cœur aspirent quand même à découvrir la lumière de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Et je commencerai justement par cette seconde catégorie de personnes, car beaucoup d'entre elles sont encore en captivité. Ils sont prisonniers derrière des murs d'ignorance. Nombreux sont ceux-là qui, du fait de leur manque de connaissance des principes de la marche avec Dieu, viennent, ouvrez bien vos oreilles, ramasser des malédictions plutôt que de la bénédiction sur le mur Facebook du général de l'Éternel des armées. Point. Ouvrez bien vos oreilles. Depuis que le général de l'Éternel a publié sa photo sur son mur Facebook, il a changé de photo de profil. Le serviteur de Dieu a eu droit à toutes sortes de traitements. Entre étonnement et moquerie, chacun y allant selon son inspiration du moment. Il faut qu'on vous le dise et que cela soit clair une fois pour toutes dans vos esprits. Chaque fois que vous vous entraînez de manière irrévérencieuse à un serviteur de Dieu, vous vous exposez gratuitement par ce fait même à ce qu'on appelle la malédiction des prophètes. Vous avez compris? Chaque fois que vous vous attaquez à un serviteur de Dieu, vous vous exposez à la malédiction des prophètes. Je crois savoir que tout un enseignement a été dispensé dans ce ministère par le prophète Yves Roland Kameni sur le thème de la malédiction. Cet enseignement est disponible sur le site internet www.redesnac.org. Vous allez sur ce site dans l'onglet enseignement et vous cherchez l'enseignement sur les malédictions. Prenez la peine de réécouter cet enseignement et vous en serez plus édifié. Je vais maintenant demander le micro dans l'assistance et nous allons lire l'histoire du prophète Élisée. 2 Rois, chapitre 2, versets 23 à 24. 2 Rois, chapitre 2, versets 23 à 24. Un lecteur avec une bonne voix.
Deux Rois, chapitre 2, versets 23 à 24.
Deux Rois, chapitre 2, versets
23 à 24. Trouvez-lui un micro qui fonctionne normalement, s'il vous plaît.
Deux Rois, chapitre 2.
Changez de micro.
Deux Rois, chapitre 2, versets 23 à 24. Élie au nom de l'Éternel. Il monta de là à Bethel, et quand il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Amen.
Il mit pour Élisée. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Il faut bien qu'on saisisse le contexte de ce récit. Élisée est le successeur du grand prophète Élie. Nous sommes au temps des rois, vers l'an 850 avant Jésus-Christ. Élisée vient donc d'hériter de la fonction de prophète et il doit faire ses preuves afin que le peuple l'accepte en tant que tel. Et comme premier acte prophétique, Élisée commence par purifier les sources d'eau de Jéricho. Un lecteur pour 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22.
2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen.
Et visualisez bien ce qui se passe. Le même Élisée qui vient te bénir et purifier les sources d'eau, peu de temps après, se trouve dans la situation de devoir maudire un groupe d'enfants qui se sont moqués de lui. D'un côté, nous voyons Élisée, source de bénédiction pour Jéricho à travers la purification des eaux. Élisée, source de malédiction pour les 42 jeunes gens qui se sont moqués de lui. C'est le même Élisée, c'est la même personne. Un serviteur de Dieu peut être dans votre vie source de bénédiction ou source de malheur. Tout dépend de la manière dont vous le traitez. C'est clair. Le même Élisée qui a purifié les eaux, donc les sources de bénédiction a maudit et 42 jeunes ont été dévorés par des loups. C'est le même. Mais quand on dit que les jeunes gens s'étaient moqués d'Élisée, de quoi ressort-il exactement? La Bible nous enseigne qu'Élisée était chauve. Boule zéro. Est-ce que vous dites non? Or, à cette époque, être chauve avait une connotation négative. C'était un signe de faiblesse. Pourquoi signe de faiblesse? On tient pour référence l'histoire de Samson. À la naissance de Samson, il lui est demandé, il est demandé à ses parents, que la lame ne passe jamais sous ses cheveux. La force, la puissance, l'autorité de Samson se trouve dans ses cheveux. Donc, un homme chaud et signe de faiblesse en référence à Samson. Donc, c'est pourquoi on se moque d'Élisée. Il est chaud. De plus, le crâne rasé était aussi le signe distinctif des prêtres de Baal que son maître Élie avait anéanti. Donc, problème numéro un d'Élisée, on se moque de lui à cause de son apparence, à cause de son look. N'est-ce pas? On se moque de lui à cause de son apparence. Deuxième problème. Élie, le père spirituel d'Élisée, est monté au ciel dans un tourbillon de feu. On peut lire ce récit dans 2 Rois 2, versets 3 à 5. Et l'histoire d'Élie, tout le peuple d'Israël la connaît. Donc, lorsque les jeunes gens se moquent d'Élisée en lui disant « Monte, chaud », l'on peut être amené à penser que ces jeunes gens nient la véracité de l'enlèvement d'Élie, soit alors qu'ils demandent à Élisée de monter comme son maître et monter. Il y a donc de façon évidente de la méchanceté dans les propos et l'attitude des jeunes gens qui se moquent d'Élisée. Ces gens remettent en cause l'appel que Dieu a mis sur Élisée. Mais au-delà de la personne d'Élisée, il s'agit du rejet complet de Dieu en même temps que de son serviteur. Et la sentence est immédiate. Exaspéré, Élisée déclenche la punition divine contre ses détracteurs. Deux ours sortent de la forêt et dévorent 42 jeunes gens. En réalité, ces 42 jeunes gens ont eux-mêmes attiré sur eux la malédiction. Ils ont eux-mêmes attiré sur eux la colère de Dieu. Et c'est ce qui se passe chaque fois que vous méprisez ou vous vous moquez d'un serviteur de Dieu puissamment oint. Vous courez un risque énorme parce que vous attirez sur vous la malédiction et la colère de Dieu. La Bible dit que lui disait qui arrive. Élisée avait reçu la double portion de la puissance d'Élie, son père spirituel. N'est-ce pas? Il avait reçu la double portion de son père spirituel. Et cela est vérifiable parce que, suite à la déclaration d'Élisée, deux ours sont sortis de la forêt. Les chiffres ne sont pas un ornement dans la parole de Dieu, vous avez compris. Élisée a reçu la double portion et quand il a déclaré, deux ours sont sortis de la forêt. Maintenant, ouvrez largement vos oreilles et écoutez attentivement. Dans ce ministère, il faut que cela soit clair dans votre esprit. Dans ce ministère, vous avez affaire à Moïse avec toutes les ressources de Jésus-Christ. Vous avez affaire à Moïse avec toutes les ressources de Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui s'amusent à insulter, à calomnier, savez-vous à qui vous avez affaire?
savez-vous même quelle est la personne que vous affrontez? Vous êtes sûr de le connaître? Vous êtes sûr? Qu'est-ce qui empêchera Dieu de vous frapper? Qu'est-ce qui empêchera Dieu de vous frapper? Parce qu'en réalité, quand vous en prenez au serviteur, Dieu considère que vous remettez en cause son autorité. Et donc, vous affrontez Dieu. Vous êtes fatigué de vivre. Dites-moi, vous êtes fatigué de vivre. Vous savez que le moyen le plus sûr d'écourter votre vie sur terre, c'est vous attaquer à un noir. On vous l'a jamais enseigné, n'est-ce pas? Si vous voulez mourir vite, attaquez-vous à un noir. Je sais qu'il y a des gens qui sont animés de tendances suicidaires. En fait, ils sont déjà morts sur le plan spirituel. Et ils cherchent un bouc émissaire. C'est celui qui passe dans la sorcellerie. On vous a déjà tué sur le plan spirituel. Et maintenant, on élabore toute une mise en scène. On programme votre mort sur le plan matériel. Parce que le spirituel domine sur le matériel. On vous mange, entre guillemets, la nuit. Et on met en scène votre mort sur le plan matériel à travers un accident, une noyade ou que sais-je. Donc, faites très attention. Vous avez compris que l'histoire d'Élisée et des 42 jeunes gens vous servent de leçon. Vous avez compris? Cette histoire est une illustration biblique de ce qu'on appelle la malédiction des prophètes. C'est vrai. Nombreux sont ceux qui pensent que la Bible n'est qu'un livre d'histoire. Nombreux sont ceux qui estime et prétend que la Bible n'est qu'un livre d'histoire. Mais, sachez-le, nul n'est censé ignorer la loi. Vous avez compris? À ces personnes, nous disons ceci. Ni votre arrogance, ni votre ignorance ne vous sauveront la vie. Vous l'avez compris? Bien au contraire. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est important que vous sortiez définitivement de l'ignorance. Souvenez-vous que l'ignorance n'est pas une vertu. Vous avez compris? L'ignorance n'est pas une vertu. On ne peut pas se vanter d'être ignorant. Vous avez compris? On ne peut jamais se vanter d'être ignorant. Beaucoup de ceux qui bavardent, qui parlent fort dans les réseaux sociaux, ne font qu'étalage de leur ignorance. Celui qui parle le plus fort n'est pas toujours celui qui a raison. Vous avez compris? Et c'est encore plus vrai quand on aborde le couloir des choses spirituelles. Nous arrivons au terme d'une année et nous nous apprêtons pour la traverser. Il est nécessaire que vous entrez dans la nouvelle année avec un nouveau logiciel, vous avez compris. Vous devez aborder la nouvelle année avec un nouveau logiciel. Vous devez entrer dans la nouvelle année dans une nouvelle posture mentale et comportementale.
J'ai une question. Ça concerne la malédiction des prophètes. Pour les hommes de Dieu qui ne marchent pas devant la face de Dieu, est-ce que la malédiction des prophètes est aussi valable?
Donnez-lui un micro pour que cette question soit entendue par tout le monde.
Je disais, pour les hommes de Dieu qui ne marchent pas devant la face de Dieu, est-ce que la malédiction des prophètes est aussi valable lorsqu'il a commencé?
Est-ce que les hommes de Dieu peuvent aussi être frappés par la malédiction des prophètes? Je simplifie ta question, c'est ça?
Non.
J'ai simplifié la question. Est-ce que les hommes de Dieu peuvent être frappés par la malédiction des prophètes? Non. N'entrons pas, ne spéculons pas. Vous avez posé une question et je réponds à votre question. Personne, élargissez vos oreilles si vous pouvez. Élargissez. Personne n'est à l'abri de la malédiction des prophètes. Vous avez compris? Personne. Un serviteur de Dieu qui s'en prend à tort à un autre serviteur de Dieu, puissamment, point, et frapper la malédiction des prophètes. Point. Que cela soit clair. Je vais répondre à votre question. En réalité, les principes de la marche avec Dieu s'appliquent à tout le monde. Vous avez compris? Un serviteur de Dieu qui a la connaissance des principes de la marche avec Dieu ne s'attaquera jamais à un autre serviteur de Dieu. Vous avez compris? Dès l'instant où un serviteur de Dieu s'attaque à un autre, à tort ou à raison, il est frappé. Parce que la loi s'applique à tous. C'est clair maintenant. Vous voulez ne pas savoir si celui qui a bavardé marche ou ne marche pas. La loi, c'est la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. On peut continuer maintenant. Je disais qu'il est important que vous abordiez la nouvelle année dans un nouveau logiciel, dans une nouvelle posture mentale et comportementale. Il est important que vous abandonniez derrière vous vos vieilles habitudes, la paresse, le mensonge, l'indolence, la tricherie, la fraude, mais également l'ignorance. La marche avec Dieu est fondée sur un critère de performance. Vous avez compris? La marche avec Dieu est fondée sur un critère de performance. Si vous voulez marcher avec Dieu, habituez-vous à être performant dans tous les domaines de votre vie. Vous avez compris? Habituez-vous à être performant dans tous les domaines de votre vie. Revêtez de nouveaux vêtements de lumière. Quelqu'un pour lire Éphésiens 5, verset 8. Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Un micro.
Éphésiens 5, verset 8, il est écrit. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen.
Sortez donc définitivement des ténèbres de l'ignorance. Osez croire et accueillir la lumière et la connaissance divine qui vous sont transmises à travers la parole de Dieu et à travers ses serviteurs. Amen. Nous avons commencé notre exhortation avec l'histoire du prophète Élisée. Élisée est pris à partie par un groupe de jeunes gens qui se moquent de son apparence. Et dans un élan de colère, le prophète déclare contre ses adversaires et 42 d'entre eux sont anéantis. Remarquez bien une chose. Si la parole d'Élisée a agi avec tant d'efficacité, c'est aussi parce que Élisée était investi de l'autorité de Dieu. Vous avez compris? Si la parole d'Élisée a agi de manière quasi instantanée, c'est parce que Élisée était aussi investi de l'autorité de Dieu. C'est pourquoi l'enseignement de ce jour, qui en fait est la troisième et la dernière partie d'une série, porte justement sur l'autorité des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur l'autorité des serviteurs de Dieu. Les anglo-saxons disent « te focus ». Donc, nous irons à l'essentiel. Vous avez compris. Nous irons à l'essentiel. Vous devez retenir une chose. C'est que lorsque l'Esprit Saint enseigne, le but n'est pas de vous remplir la tête de connaissances libresques ou de la connaissance matérielle des textes. Tout le monde peut réciter la Bible. Vous avez compris? Tout le monde peut réciter la Bible. Mais ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça la finalité. Lorsque l'Esprit Saint enseigne, il regarde prioritairement le cœur de son peuple. Vous avez compris? Et l'Esprit Saint a toujours pour souci d'apporter des solutions, des réponses concrètes à des problèmes concrets qui concernent son peuple. Vous avez compris? Cet enseignement a été préparé d'une certaine manière, mais l'Esprit Saint a choisi de l'orienter à cause de votre cœur. Vous avez compris? Beaucoup parlent dans leur cœur. Beaucoup dans le peuple, même dans ce ministère, ont encore des zones d'ombre. Ils ont des doutes sur l'authenticité de ce ministère. Beaucoup ont encore des doutes sur la personne de l'envoyé, sur la personne du général de l'Éternel des armées. N'est-ce pas? Avouez! C'est vrai, n'est-ce pas? Vous savez qu'on ne peut pas tromper Dieu. Ils sondent les cœurs, ils sondent les reins. À cause de cette préoccupation-là, l'enseignement de l'autorité des serviteurs de Dieu qui est dispensé aujourd'hui a une orientation bien précise et concise. Pour illustrer cet enseignement, nous avons choisi de manière subjective quelques figures bibliques. Nous avons choisi deux figures. La figure de Moïse et la figure de Jésus-Christ. Mais qui était Moïse? Si je pose la question, qui était Moïse? Le micro à l'assistant. Qui était Moïse? Quelqu'un pour répondre. Levez les doigts. De la même manière que tout à l'heure, vous avez posé des questions, répondez maintenant. Qui était Moïse?
Moïse était la personne choisie par Dieu pour libérer le peuple d'Égypte et le faire sortir de la captivité pharaonique. Le peuple d'Israël, plus précisément.
Réponse intelligente. Mais là, tu allais trouver. En fait, quel était son statut? Quel était le statut de Moïse? Ne faites pas comme à la Madeleine, tout le monde parle pour un moment, vous levez le doigt, on vous donne la parole. Quel était le statut de Moïse?
Le statut de Moïse, il était le représentant. Il était le représentant de Dieu pour le peuple d'Israël. Donc il était celui que le Dieu consultait quand il voulait parler aux hommes.
Réponse intelligente. Cependant, vous êtes allé trop vite. Faisons simple. Moïse était un prophète. Ça vous va maintenant. Moïse était un
prophète.
Qui sont les prophètes? Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète est un homme choisi par Dieu du milieu de son peuple pour parler en son nom. Vous avez compris? Un prophète est un homme choisi par Dieu du milieu de son peuple pour parler en son nom. Étant choisi par Dieu lui-même, le prophète mérite d'être écouté. On est d'accord? Étant choisi et établi par Dieu, le prophète mérite d'être écouté. Beaucoup de personnes vont objecter. On va dire d'accord. C'est ce que dit la Bible. Mais comment savoir que quelqu'un est un vrai prophète? Est-ce qu'on peut reconnaître un prophète à son apparence? Est-ce qu'on peut reconnaître un prophète à la voiture dans laquelle il roule? Est-ce qu'on peut reconnaître un prophète à la marque de la montre qu'il porte à son poignet? En réalité, celui qui parle ou qui prétend parler au nom de Dieu doit veiller à ce que ses auditeurs deviennent véritablement libres. Vous avez compris? Le vrai prophète, c'est celui qui donne les clés au peuple, afin que le peuple devienne autonome et indépendant. Vous avez compris? Le vrai prophète, c'est celui qui donne les clés de l'émancipation au peuple. Ce n'est pas celui qui domine. Il y a plusieurs ministères. Lorsque le berger n'est pas là, rien ne fonctionne. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga de son ministère. C'est le cas dans ce ministère. C'est le cas dans votre ministère. Un vrai prophète doit payer à donner des clés au peuple afin que le peuple devienne autonome et indépendant dans la marche avec Dieu. Lisons 1 Corinthiens chapitre 7, versets 32 à 35. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 32 à 35.
1 Corinthiens chapitre 7, versets 32 à 35, il est écrit: Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen.
Dans cette lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul donne une indication sur comment doit être un vrai serviteur de Dieu. Vous avez compris? Un vrai serviteur de Dieu n'est pas celui qui donne des pardons au peuple. C'est celui qui aide le peuple à se décharger de ses fardeaux. Vous avez compris? Les enseignements qui sont dispensés dans ce ministère ne visent qu'à vous réconcilier avec Dieu, avec Jésus-Christ. La mission des serviteurs de Dieu dans ce ministère vise à donner au peuple les clés de son émancipation. Mais il y a mieux. Les enseignements qui sont dispensés dans ce ministère sont le résultat de la science de la vérité et de la vie. Ici, on apprend la science de la vérité et de la vie. Les enseignements que vous recevez ici sont directement transmis par l'Esprit Saint à travers ses instruments. Vous avez compris? Et la source de la science, de la vérité et de la vie, c'est Jésus-Christ. Vous avez compris? Le but de votre présence ici, c'est de vous reconnecter, de vous réconcilier avec Jésus-Christ. C'est vrai que pour beaucoup, ça a l'air un peu philosophique. Parce que vous avez des problèmes concrets. Vous voulez le mariage. Vous voulez avoir des belles voitures, des belles maisons. Il y en a qui sont malades et qui ont hâte de ressentir dans leur chair les signes et les preuves de la guérison. Dieu veut vous donner plus que cela. Vous avez compris? Il y a des gens qui vont vous répondre que « Ah, moi je vais pas à l'église, je ne sers pas Dieu, pourtant je suis bien dans ma vie. » Parce qu'ils sont matériellement bien assis, confortablement installés. Ouvrez bien vos oreilles. Être confortablement assis dans les biens matériels n'est pas la preuve que votre vie est en harmonie avec Dieu. Vous le saviez? Parce que beaucoup de chrétiens ont parfois cette frustration. Mais moi, j'ai pris. Celui-là, il ne va même jamais à la messe. Mais pourquoi il est riche, non? Quand il s'agit de bien de ce monde, Dieu en donne autant à qui il veut. Vous avez compris? De même que le soleil brille sur le toit du pauvre, il brille sur le toit du riche. Et même que la pluie tombe sur le toit du méchant et tombe sur le toit du bon. Il y a dans la vie ce qu'on appelle des biens aliénables et des biens inaliénables. Il y a des choses que tout le monde peut posséder. Vous avez compris? Par contre, il y a d'autres qui ne sont réservées qu'aux enfants de Dieu. Et la plus belle de toutes ces choses, c'est la vie éternelle. Et qui est la vie éternelle? C'est Jésus-Christ. Donc, si vous avez Jésus-Christ, vous avez tout. On est d'accord? Nous avons dit tantôt que les prophètes sont les représentants de Dieu. Mais puisque nous parlons de l'autorité des serviteurs de Dieu, en tant que représentants de Dieu, les prophètes sont ainsi investis de l'autorité et de la puissance de Dieu. Les prophètes sont investis de la puissance et de l'autorité de Dieu pour agir en son nom. C'est le cas avec Moïse. Quelqu'un pour nous lire Exode chapitre 7, verset 1. Exode chapitre 7, verset 1.
Exode chapitre 7, au verset 1, il est écrit. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère. Je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. » Amen.
Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. » Exode, chapitre 4, verset 15, un lecteur. Exode, chapitre 4, verset 15.
Tu parleras et tu te mettras en garde et tu mets. Exode chapitre 4, verset 15. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, tu seras. Et moi, tu serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à lui dire.
Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Exode chapitre 4 verset 16, un lecteur. Exode chapitre 4 verset 16.
Exode chapitre 4, verset 16, il est écrit, « Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Amen.
Comprenons bien le contexte. Au mont Horeb, Dieu parle directement à son peuple, n'est-ce pas? Et quand Dieu parle, la terre tremble, les éclairs déchirent le ciel. Et le peuple est terrifié. Et le peuple demande à Dieu, ne nous parle plus directement. Ne nous parle plus directement. Parce que dans le passé, Dieu parlait directement aux hommes. Et il y a donc une évolution dans la modalité, dans la relation, dans la manière dont Dieu s'adresse à son peuple. À partir de cet événement, désormais, Dieu va parler au peuple à travers un homme choisi du milieu de vous. Suivez bien la direction dans laquelle nous vous conduisons. Vous avez compris? Dieu parlait directement au peuple. Le peuple dit, ne nous parle plus, sinon nous mourrons. Et désormais, Dieu va établir sur la terre des hommes qui vont parler en son nom, investi de toute sa puissance et de toute son autorité. Vous avez compris? Et Moïse est le premier de ces hommes-là que Dieu utilise de cette façon. Dans le chapitre 7, la parole est claire. L'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Retenez bien cette phrase. Je te fais Dieu pour Pharaon. Ça veut dire que lorsque Moïse est devant Pharaon, ce n'est plus l'enfant sauvé des eaux, élevé dans la cour de Pharaon, qui a plu dans le désert. Ce n'est plus la même personne. Moïse devant Pharaon, c'est Dieu en personne.
Amen.
Je te fais Dieu pour Pharaon. Ça veut dire que tous les actes et toutes les déclarations faites par Moïse sont des actes et déclarations faites par Dieu lui-même. Et il choisit Aaron. Moïse ayant désormais le statut de Dieu, Aaron sera sa bouche comme prophète. Moïse mettra les paroles dans la bouche d'Aaron et Aaron parlera au peuple. Moïse est Dieu devant Pharaon. Ouvrez maintenant vos oreilles. Faisons un parallèle avec votre père spirituel. Comprenons la démarche de Dieu dans cette affaire que vous et nous connaissons. Vous avez compris? Lorsque Dieu décide de régler une affaire, on n'y met pas des émotions. Vous avez compris? Lorsque le Père éternel a décidé que pour ce pays, c'est la fin de la récréation et qu'il a mandaté son serviteur pour passer ce message, qu'il n'y ait plus de confusion dans votre esprit. Vous avez compris? Qu'il n'y ait plus de doute ni de confusion dans vos esprits. Le général de l'Éternel, l'Éternel des armées, a agi au nom et avec l'autorité de Dieu. Ni orgueil, ni arrogance. Dans cette situation particulière, il est Dieu.
Amen.
Vous m'entendez bien? Dans cette circonstance particulière, il est Dieu.
Amen.
Il parle, il agit en tant que Dieu sur terre.
Amen.
De la même manière que Moïse est Dieu pour Pharaon, le général est Dieu pour son interlocuteur.
Amen.
On se comprend bien? Le but dans ce ministère, c'est de vous donner des clés. Ces clés, ils vont vous permettre de déverrouiller les portes de l'ignorance dans vos vies. Le but, c'est de vous apporter la délivrance. Or, le premier niveau de délivrance est dans la connaissance. Le but, c'est de vous apporter la lumière. Il est important que vous ayez la connaissance. Mais alors, quelle connaissance? Quand nous parlons de connaissance ici, nous ne parlons pas de la connaissance des profondeurs de Satan. Quelqu'un pour lire Apocalypse, chapitre 2, verset 24. Apocalypse, chapitre 2, verset 24.
Apocalypse, chapitre 2, verset 24, il est écrit. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Amen.
Il est important que vous accédiez à la vraie connaissance qui vient de Dieu. C'est pour ça que nous faisons bien une démarcation entre spiritualité et ésotérisme. Vous avez compris. Les adeptes de Satan pratiquent de l'ésotérisme. Ici, nous parlons spiritualité. Vous avez compris. Ésotérisme, ça renvoie aux ténèbres, ça renvoie à Satan. Spiritualité, ça renvoie à Dieu. Donc, si d'aucuns, même dans ce ministère, pensaient que leur père spirituel était arrogant, orgueilleux, que ce nuage d'ignorance s'évapore de leur cerveau. Vous avez compris? Quand un serviteur de Dieu puissamment point agit au nom de Dieu, considérez que c'est Dieu lui-même qui agit. Vous avez compris? Donc, plus de confusion. Quand un serviteur de Dieu parle davantage avec autorité, il ne fait qu'extérioriser et manifester l'autorité de Dieu. Ça a été le cas avec Moïse. L'autorité de Moïse ne venait pas d'un homme. Elle venait directement de Dieu. L'autorité de votre Père spirituel lui vient directement de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu de démonstration. Comprenez? C'est un Dieu de démonstration. C'est normal. Il est le Tout-Puissant. Vous êtes habitué avec un Dieu qui n'agit jamais. Je ne sais pas combien d'années vous avez passé dans la religion. Et tous les dimanches, vous allez au culte. Et à la fin, il y a une très belle formule. Allez dans la belle vue. Je n'en dirai pas plus. Dieu est le Tout-Puissant. Vous avez compris. Comment on peut aller dans la paix de Christ quand on est attaché comme le lion d'or? Comment on peut aller dans la paix de Christ quand la ménopause vous menace et que vous n'avez pas encore enfanté? Comment on peut aller dans la paix du Christ quand on a passé 30 ans de carrière sans la moindre promotion? Comment peut-on aller dans la paix du Christ? Quand on est un parent, et qu'on a mis au monde 10 enfants et que 9 sur les 10 sont morts avant la fleur de l'âge. Il y a quand même un problème. La paix est-elle possible dans ces conditions? Vous avez l'impression que Dieu est vraiment puissant dans ces vies-là. Le Dieu que nous servons est un Dieu de puissance. C'est un Dieu d'autorité. C'est un Dieu de démonstration. Et quand Dieu choisit un homme pour le représenter au milieu de son peuple, il transfère sa puissance, son autorité sur cet homme, afin que cet homme, lui aussi, puisse agir avec puissance et autorité.
Amen.
Quelqu'un pour nous dire Exode chapitre 14, verset 21. Exode chapitre 14, verset 21.
Exode 14, verset 21, il est écrit: Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Amen.
Moïse, avec la mission de sortir Israël de la captivité, doit conduire le peuple de Dieu vers la terre promise. Mais sur le chemin, il y a un obstacle de taille. Il y a la mer Rouge. Et la Bible dit qu'ils étaient plus de 600 000 hommes, sans compter femmes et enfants. Dieu, qui nous donne des démonstrations, ayant délégué, transpirer toute sa puissance sur la personne de Moïse. Moïse, investi de la puissance de l'autorité de Dieu, va juste étendre la main et la mer va s'écarter. Voilà le Dieu tout-puissant. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas imaginer. Pour ceux qui ont fait un peu de physique à l'école, quelle puissance, quelle énergie il faut pour écarter l'océan. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il n'y a que la puissance de Dieu pour le faire. Et Moïse l'a fait en tant que Dieu sur terre à cette époque-là. Seconde figure pour illustrer l'enseignement sur l'autorité des serviteurs de Dieu, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons dit que nous irons droit au but. Qui est Jésus-Christ? Le micro dans l'assistance. Qui est Jésus-Christ?
Jésus-Christ.
Il ne s'est pas demandé de lire un passage de Bible. Il s'est posé une question simple. Qui est Jésus-Christ?
Jésus-Christ est le nom que Dieu lui-même s'est donné pour acheter l'humanité.
Amen.
Reprenez. Qui est Jésus-Christ?
Jésus-Christ est le nom que Dieu lui-même s'est donné pour acheter l'humanité.
Quelqu'un pour nous lire Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Ésaïe chapitre 9, verset 6.
Ésaïe chapitre 9, verset 6, il est écrit:
donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
Il a lu le verset 6. J'ai dit Ésaïe chapitre 9, verset 6. C'est pas la même version. Bon. Nous parlons de Jésus-Christ. J'ai posé la question de savoir qui était Jésus-Christ. Dans Ésaïe, nous sommes encore dans l'Ancien Testament, on nous annonce déjà la venue de Jésus-Christ. Et voici comment il est annoncé. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Regardez tous les qualificatifs utilisés pour désigner Jésus. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Jésus-Christ est Dieu, tout simplement. On est d'accord. De la même manière que ça s'est passé entre Dieu et Moïse, Jésus-Christ, en fait Dieu lui-même, transmet sa puissance et son autorité sur ses disciples. On est d'accord? De la même manière que Dieu a transféré son autorité et sa puissance sur Moïse, Jésus-Christ, qui est le nom que Dieu lui-même s'est donné, il y a cela 2000 ans, transfère lui aussi sa puissance et son autorité à ses disciples. Quelqu'un pour nous lire Matthieu, chapitre 10, verset 8. Matthieu, chapitre 10, verset 8.
Matthieu 10. Matthieu 10, verset 8, il est écrit. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Amen.
Jésus-Christ, qui est Dieu, transfère son autorité et sa puissance sur ses disciples avec pour mandat de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux et de chasser les démons. Dans ce ministère, on chasse les démons, on guérit les malades, on purifie les lépreux entre guillemets, et on ressuscitera même les morts par la grâce de Dieu. C'est ça l'autorité des serviteurs de Dieu.
Amen.
Le serviteur de Dieu est investi de l'autorité de celui qui l'a mandaté. C'est pourquoi il peut agir et opérer avec la même puissance et la même autorité que celui qui l'a mandaté. C'est pour le cas pour Moïse. C'est le cas pour les disciples de Jésus-Christ. On est d'accord? Maintenant, nous allons régler un problème.
le général de l'éternel des armées a changé sa photo de profil sur son compte Facebook. Et beaucoup de personnes ont dû remarquer que son apparence physique a changé. N'est-ce pas? Son apparence physique a changé. Et à cause de ces changements, il y a eu beaucoup de confusion dans l'esprit des gens. Comme on s'est habitué à tricher, à frauder, on est victime d'une sorte de conditionnement mental qui nous fait croire que comme nous sommes tricheurs, tout le monde est tricheur. Vous comprenez? C'est une très mauvaise mentalité, malheureusement répandue dans le peuple. Les gens sont tellement habitués à tricher et à frauder au point qu'ils n'ont même plus la capacité de reconnaître le mérite. Les transformations que vous avez vues sur votre père spirituel ne sont pas le père d'un homme. Vous avez compris? Lorsque nous vous enseignons ici que nous servons le Dieu de l'impossible, ce qui se passe avec votre père spirituel n'est qu'une illustration des limites et des possibilités infinies de Dieu. Dieu est capable de transformer tout ce qu'il veut transformer, y compris un être humain. Dites-moi un peu. Lazare est mort, enterré, et 4 jours plus tard, Jésus-Christ le ressuscite. La Bible précise bien que Lazare sentait déjà, son corps sentait déjà. Il était en état de décomposition par la puissance de l'Esprit Saint, par la puissance de Jésus-Christ. Le corps en putréfaction de Lazare est totalement régénéré. Ça s'appelle la régénération. C'est une option disponible dans ce ministère. Amen. Beaucoup peuvent témoigner. Beaucoup d'hommes et de femmes qui ont suivi le programme de 90 jours donné par les dernières années ont obtenu des transformations plus spectaculaires. On a vu des femmes qui ne pouvaient plus sortir parce que leur poitrine n'était plus à la mode, retrouver la vigueur de leur poitrine. On a vu dans ce ministère des femmes stériles enfantées. Ici, sur cet hôtel, un enfant trépané sur terre, qui paralysé, a été mis debout devant le peuple. Pourquoi est-ce que vous voulez limiter Dieu? Pourquoi est-ce que vous limitez Dieu dans votre vie? On vous a tellement renvoyé à la maison dans la paix du Christ que... vous avez fini par développer une accoutumance à la souffrance. Ce n'est pas la volonté de Dieu, vous avez compris. Le Dieu que nous servons est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de l'impossible. La transformation physique de votre père spirituel est le père de ce qu'on appelle une option de régénération. Le Père éternel a décidé de changer l'apparence de votre père spirituel. Il n'est qu'à 80% de transformation. Il y a là-dedans régénération, rajeunissement, à manquer de ce monde. Toutes ces onctions sont disponibles dans ce ministère.
Amen.
Donc, arrêtez les Congossans de tout quartier. Vous avez compris? Laissez les ignorants mourir de leur ignorance. Parce que à cause de cela, beaucoup sont tombés, frappés par la malédiction des prophètes. Ne soyez pas de leur lot, que cela ne soit jamais votre partage. Le Père éternel a promis que lorsqu'il aura fini son travail sur son serviteur, on ne le reconnaîtra plus que par sa voix. Donc, que ceux qui veulent mousser continuent de mousser. Vous avez compris? Dans la marque, ça veut dire qu'on ne gère pas les émotions. Que ceux qui veulent mousser continuent de mousser. Et le Père éternel continue son œuvre de transformation. Et c'est la même chose que le Père veut faire dans vos vies.
Amen.
Et c'est la même chose que le Seigneur fera dans vos vies.
Amen.
C'est pourquoi nous vous donnons les clés. Dieu veut pour ses enfants des projets de bonheur et de prospérité. Sortez de la médiocrité. Osez croire. Ne limitez pas Dieu dans vos vies. Vous avez compris? Ne le limitez jamais. Mettez-le à l'épreuve. Mais ne le tentez pas, il y a une nuance. La parole demande de ne pas tenter Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu lui-même dans sa parole demande de le mettre à l'épreuve. C'est vrai pour les dîmes, mais c'est vrai dans tous les autres domaines de la vie. En réalité, mettre Dieu à l'épreuve, c'est le confronter à sa propre parole. Vous avez compris maintenant? C'est différent de tenter. Nous avons donc deux figures, Moïse et Jésus-Christ. Dans ce ministère, celui que vous avez pour père spirituel est Moïse avec toutes les ressources de Jésus-Christ. Imaginez l'opportunité que vous avez. Vous avez à votre service Moïse avec toutes les ressources de Jésus-Christ. Ce qui est passé revient. Ne manquez pas la bonne occasion. Vous avez compris? Ne manquez pas la bonne occasion. Si vous aviez des doutes dans vos esprits, que ces doutes soient définitivement évacués. Vous êtes au bon endroit. Et vous êtes en face de la bonne personne. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre vos leçons. C'est de faire vos devoirs, c'est de mettre en pratique tous les enseignements, c'est de mettre en pratique et d'utiliser les clés qui vous sont données. Et vous obtiendrez plus que ce que vous pouvez imaginer. Amen.
Amen.
Quelqu'un pour nous lire Matthieu, chapitre 27, verset 51. Matthieu, chapitre 27, verset 51.
Matthieu 27, chapitre 6. Matthieu 27, verset 51, il est écrit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les roches se fendirent. Amen.
Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ce passage de l'Évangile, on a certainement dû l'entendre plusieurs fois, n'est-ce pas? Et quand on visualise la scène, c'est un passage un peu mélancolique, triste. Christ venu pour la terre, pour sauver le monde, est rejeté par le peuple, il est crucifié, il est pendu au bois de la croix. Et dans cette scène, il rend l'âme. À l'époque où nous étions encore dans la religion, et que nous faisions, comment ça s'appelle, le chemin de croix. Quand on lisait ce passage-là, on se mettait à genoux. C'est un peu comme un signe de défaite. Non. Il y a un code. Vous avez compris? Il y a un code dans ce passage. Ce n'est écrit nulle part. L'expression vous le donne. Pourquoi le voile se déchire? Pourquoi la terre tremble? Pourquoi les rochers se pendent? Et pourquoi les morts ressuscitent? Quand un être humain meurt, l'âme sort du corps, n'est-ce pas? Et elle s'en va dans les plans du repos. Lorsque le Christ expire, toute la puissance de son esprit envahit la création tout entière. C'est la puissance et l'autorité de l'esprit de Christ qui déchire le voile, qui brise les rochers et qui ressuscite les morts.
Amen.
C'est cette autorité-là que l'on voudrait que vous convoquiez dans vos vies.
Amen.
En réalité, lorsque vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, vous recevez en même temps la puissance et l'autorité qui détireront les voiles que l'ennemi a déposés dans vos vies. Vous recevez la puissance et l'autorité qui brisera les chaînes avec lesquelles l'ennemi vous tenait liés. Quand vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, vous recevez l'autorité, la puissance qui ressusciteront même les parties de votre corps qui étaient déjà mortes et enterrées dans la sorcellerie.
Amen.
Voilà l'autorité. Voilà cette autorité que vous devez revendiquer. Voilà l'autorité qu'on aurait dû vous enseigner. L'autorité qui libère. Vous avez compris? Pas celle qui opprime. Vous êtes des filles et des fils de roi. Vous êtes des princes et des princesses de Jésus-Christ. Vous avez reçu l'autorité de votre Père. Désormais, engagez-vous à utiliser l'autorité que vous avez reçue dans tous les compartiments de votre vie. Amen.
Amen.
Soyez abondamment bénis.